Votre attitude est un état de croissance. La série sur le lieu d'adoration numéro 32. Dimanche 12 mars 1995. Pasteur Brian Kozurek. Dimanche dernier matin, nous avons vu comment frère Branham a fixé ses pensées sur les conditions et l'atmosphère avec un autre élément très important appelé l'attitude. L'état, l'atmosphère et l'attitude. L'attitude, la position ou l'attitude assumée par le corps par rapport à une action, un sentiment ou une humeur. Une manière d'agir, de sentir, ou de penser qui montre l'humeur de quelqu'un. Son humeur, son opinion ou sa disposition mentale. Ainsi, nous pouvons voir ici que votre attitude est aussi un état de croissance. C'est le reflet extérieur d'une façon de voir les choses. Et si votre attitude est un reflet de ce qui se passe dans votre cœur, alors le cœur et la pensée doivent d'abord être dans la bonne humeur, et ensuite, le corps reflétera ce qui est à l'intérieur. Une fois que votre esprit arrive au point de vivre, mourir, sombrer ou couler, votre corps suivra simplement. Tant de gens se promènent avec de mauvaises attitudes aujourd'hui au point où vous devez vous demander de quoi ont-ils nourri leurs âmes. Parce que votre attitude n'est qu'un reflet de ce qui est dans votre cœur. Maintenant, quand nous pensons à l'état, nous pensons à la mécanique, mais quand nous pensons à l'attitude, nous voyons quelque chose quelque peu différent. Je crois que votre attitude est ce qui connecte la mécanique à la dynamique. Vous pouvez bien avoir toute la mécanique et comme frère Branham l'a dit, placer un œuf vivant sous une poule morte et ça ne marchera pas. Vous pouvez bien avoir toute la mécanique, bien avoir toutes les conditions réunies, mais vous serez simplement un légaliste. La mécanique c'est l'état, mais la dynamique c'est la parole vivante de Dieu en action, et le petit lien entre ces deux c'est votre attitude. E35 Dieu dans sa parole Auckland.ca 23.03-57. Prenez mon témoignage dans ses enregistreurs ce soir. Je n'ai aucune excuse pour la remarque que je m'apprête à faire. Je crois, et je peux prouver, que la bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse divine de Dieu l'amènera à s'accomplir. Oui, monsieur. La bonne attitude mentale. Mais vous devez avoir la bonne attitude. L'attitude est ce qui amène les résultats. Si vous dites, oui, oui, je crois cela mais je n'ai mis c'est pas maintenant. Ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude c'est de recevoir cela, et de dire que c'est ainsi dit le Seigneur. Alors c'est juste. Sans de le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu 28.11-1965 ce qui compte, c'est l'amour que vous avez pour Dieu. Seigneur, peu importe ce que tu veux que je fasse, j'accepte de le faire. Dans ce cas-là, vous avez fait un pas. Mais si vous n'agissez pas de cette manière, de la manière que lui a montré de le faire, 103 le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu 28.11-1965 c'est lui qui a choisi. Le lieu que j'ai choisi. C'est là que vous adorerez, et que vous offrirez vos sacrifices. 104 le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu 28.11-1965 a apporté son sacrifice. Abel, le sien. Mais tout dépend du lieu où vous l'amenez. Si vous l'offrez dans le lieu qu'il a choisi, alors ce sera très bien. Et il l'acceptera. Autrement, il ne l'acceptera pas. Peu importe. C'est le même sacrifice. Quel que soit le sacrifice, il sera rejeté, à moins qu'il ne soit offert dans le lieu convenable. 105 le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu 28.11-1965 maintenant, ce que nous voudrions découvrir, Sester où nous devons apporter notre sacrifice. Si nous pouvions découvrir, nous voudrions tous aller au ciel, n'est-ce pas? Mais nous savons que nous avons fait le mal acquis. Nous croyons tous que Jésus est le sacrifice. Ce que nous voudrions savoir, c'est où nous devons le prendre afin qu'il soit agréé. Vous comprenez? La Bible nous enseigne où nous devons prendre ce sacrifice afin qu'il soit agréé. Hors de cela, il n'y sera pas agréé. Maintenant, je crois que toute la chrétienté croit qu'ils adorent Christ. Je crois qu'ils sont complètement persuadés que le Jésus-Christ qu'ils adorent est le seul et vrai Dieu. Mais il nous est dit par l'apôtre Paul et frère Branham qui sont les deux confirmés par Dieu lui-même, que ce n'est sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Matthieu 7, 15-23. Ce n'est pas tous ceux qui prétendent m'adorer que j'agrée l'adoration. Ceci vous dit que Dieu est très sélectif dans toute adoration qui lui est adressée. Alors, ceci nous dit que nous devons aussi être très sélectifs dans la manière que nous l'adorons. Jean 3, 19-21, verset 20-21, nouvelle version internationale, celui qui fait le mal acquis à la lumière, et n'y viendra pas à la lumière, de peur que ses actions se soient exposées. Mais quiconque vient à la lumière, afin qu'il puisse être clairement vu, de sorte que ce qu'il a fait a été fait à travers Dieu. Jean 4, 23-24. Remarquez qu'il nous dit ici que Dieu a une catégorie des gens, et il cherche leur adoration. Ainsi, ces gens ont une place et cette place est dans l'esprit et dans la vérité. 1 Jean 1, 1-7. Si nous marchons dans le même lieu dans lequel il est, alors nous avons la communion. Par conséquent, le lieu de son choix est dans sa présence. Si c'est le lieu de votre choix, alors votre présence fera défaut. Mais si c'est le lieu de son choix, alors sa présence sera sans défaut. Et qu'est-ce que la présence de Dieu en cette heure-ci? C'est la manifestation de son message confirmé pour nous. C'est tout ce qu'il en est de la doctrine de la présence. Ce n'est pas dire, et il est ici et puis c'est ça. Non. Au contraire. Ce n'est que le commencement. Il a dit, si vous marchez dans quoi? La lumière. La vérité. Le message. Comme lui. Qui? Dieu lui-même marchait par sa présence et sa colonne de feu. Il confirme que c'est là où nous nous rencontrons. Dans sa parole pour cette heure-ci, la lumière. D'autres par leur tempérament prédestiné Néhémie peuvent pas marcher dans la lumière parce qu'elle dévoile qui ils sont réellement. C'est la raison pour laquelle ils combattent cela autant. Et c'est la raison pour laquelle on se moque même de la colonne de feu comme confirmation de la présence de Dieu dans ce message. Ils n'ont pas besoin de sa lumière. Ils ont besoin de leur propre lumière. Beaucoup d'entre eux ont leur propre photo Polaroid essayant de réclamer la colonne de feu pour leur propre identification. Esaïe 50, 7-11, nouvelle version internationale, parce que l'Éternel qui est souverain me vient au secours, je n'y serai pas déshonoré. Par conséquent, j'ai mis mon visage comme un caillou, en d'autres termes, que je vive, que je meure, que je sombre ou que je coule, je me suis engagé jusqu'au bout. Celui qui me confirme est proche. Qui m'accusera alors? Qu'on passons ensemble. C'est l'Éternel qui est souverain, qui me vient au secours. Qui me condamnera? Ils s'useront comme un vêtement. La teigne les rongera. Qui parmi vous craint le Seigneur et obéit à la voix de son serviteur? Que celui qui marche dans les ténèbres, qui n'a aucune lumière, se confie dans le nom de l'Éternel et compte sur son Dieu. Pourquoi? parce qu'alors vous aurez la lumière. Sa lumière. Apocalypse 1:10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, qu'est-ce ce qu'une forte voix? Un cri. Comme le son d'une trompette. Maintenant, verset 12, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. 13. Et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressembla à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Sester la nuée, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Jean Sester retourné pour voir la grande voix. Le cri est qu'est-ce ce qu'il a vu? La colonne de feu, la lumière et la perruque blanche se sont aussi avancées vers lui. Esaïe 50, 10-11. Qui parmi vous craint le Seigneur et obéit à la voix de son serviteur? Que celui qui marche dans les ténèbres, qui n'a aucune lumière, se confie dans le nom de l'Éternel et compte sur son Dieu. Pourquoi? Parce qu'alors vous aurez lumière. Sa lumière. Voici, vous tous qui allumez un feu, et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Sester par mes mains que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Malachie 1:10, nouvelle version internationale. Oh, lequel de vous fermerait les portes du temple, afin que vous n'allumiez pas de feu inutile sur mon autel. Je n'ai m'y prends aucun plaisir avec vous, dit l'Éternel, le Tout-Puissant, et je n'accepterai aucune offrande de vos mains. Psaume 89, 15, nouvelle version internationale. Béni soient ceux qui ont appris à t'acclamer, qui marchent dans la lumière de tes présences, ô Éternel. Le mot anglais acclame également hébreu trua qui signifie un cri ou le souffle de la trompette. Béni soient ceux qui ont appris à te souffler de la trompette, ton cri, et qui marchent dans la lumière de tes présences, ô Éternel. Jean 8:12. Jésus leur parla de nouveau, et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 11:9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. 10. Mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'estère pas en lui. Éteignez les lumières et vous aurez certains des enfants qui vont essayer de trouver la route. Pourquoi les gens trébuchent-ils dans les ténèbres? Parce qu'ils sont incertains. Ils ne sont pas sûrs. Alors, ils tâtonnent tout autour. Tendez leurs mains et cherchez quelque chose qu'ils vont toucher. Ils dépendront alors de cela pour marcher. Jean 12, 35, version amplifiée. Jésus a dit, vous n'aurez la lumière que pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, continuez à vivre par elle, afin que les ténèbres d'ennemi puissent vous surprendre et d'ennemi puissent vous vaincre. Celui qui marche dans les ténèbres d'ennemi sait où il va. Il dérive. Alors, pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, ayez foi en elle, tenez-vous à elle et comptez sur elle, de sorte que vous puissiez devenir fils de la lumière et que vous en soyez remplis. Éphésiens 5, 6-16, version amplifiée. Que personne n'ait vous tromper n'ait vous séduise par des prétextes vides et des discussions sans fondement. Car à travers ces choses, la colère de Dieu tombe sur les fils de la rébellion et de la désobéissance. Ainsi, n'aimez vous associez pas à eux. Car une fois vous étiez les ténèbres, mais maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez alors comme des enfants de la lumière et conduisez vos vies comme ceux qui sont natifs, nés dans la lumière. Parce que les fruits ou les effets, les produits de la lumière, l'esprit, consistent en toute forme de bonté, de droiture de cœur et de l'état correct de la vie. Et essayez d'apprendre dans votre expérience ce qui est agréable au Seigneur. Ainsi, laissez vos vies être des preuves constantes de ce qui est très acceptable à lui. N'y prenez aucune part et n'ayez aucune communion avec les actions infructueuses et des œuvres des ténèbres. Au lieu de laisser vos vies être si contraires, comme pour les exposer et les blâmer et les rendre coupables. Car c'est même une honte de dire ou de mentionner les choses que de tels gens pratiquent en secret. Mais quand tout est exposé et condamné par la lumière, cela est rendu visible et clair. Et là où tout est visible et clair, il y a la lumière. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, ô toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ brillera sur toi et t'éclairera. Esaïe 60:1-3. Lire verset 1. Relève-toi de quoi? Version amplifiée. Relève-toi de la dépression et de la prostration dans lesquelles les circonstances t'ont plongé, et relève-toi pour une nouvelle vie. Brille, sois rayonnant de la gloire de l'Éternel, car ta lumière est revenue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. 106 Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu 28:11-1965. Considérons le lieu qu'il a choisi, et où devait être déposé le sacrifice, le lieu qu'il a choisi pour déposer le sacrifice. Vous n'ayez pouviez la porter à aucune des portes de la ville, vous deviez la porter au lieu qu'il avait choisi, le lieu qu'il avait choisi pour y faire résider son nom. Maintenant, cherchons ce lieu dans les Écritures, car c'est le lieu qu'il a choisi pour y faire résider son nom. 107 Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu 28:11-1965. Ce matin, j'ai noté un texte sur ce sujet. Lisons le deuxième verset de ce chapitre. Je ne m'y voudrais pas parler trop longtemps, à cause de ceux qui écoutent par téléphone. Lisons le verset 2 du chapitre 16. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. 108 Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu 28:11-1965. Votre sincérité et tout ce que vous voudriez confesser, vous n'ayez mis pouvez simplement le prendre et la porter à l'autel méthodiste, baptiste ou pentecôtiste. Il y a quelque part un autel que lui a choisi pour y faire résider son nom, et c'est là qu'il pourra vous rencontrer. Si vous faites en sorte que tout fonctionne bien, cela fonctionnera bien, tout est en ordre. Mais s'il y a un court-circuit dans le fil, la lumière n'y passera pas, parce qu'elle a été court-circuitée. Lorsque vous prenez une des paroles de Dieu, ou que vous alliez dans un des lieux qu'il a choisi, et qu'il y a dans votre cœur des pensées égoïstes, cela court-circuitera la puissance de Dieu à cet endroit précis. Si vous le faites parce que vous voulez être plus intelligent que les autres, ou que vous vouliez être différent, c'est là qu'il y aurait le court-circuit, et le fusible sautera. Vous êtes dans l'erreur. Vous devez venir avec sincérité, de tout votre cœur. Vos motifs et vos objectifs, placez-les en Dieu. Ensuite, cherchez le lieu qu'il a choisi, et apportez-y votre sacrifice. Comprenez-vous cela? Le motif, c'est un besoin intérieur, l'impulsion ou l'intention qui pousse quelqu'un à faire quelque chose ou d'agir dans une certaine manière, causant ou ayant tendance à causer le mouvement. Une impulsion, le désir ou l'intention qui aboutissent à une action. L'objectif, se donner un but. Le but, non accidentellement, mais à dessein. Jacques 4, 3, lire, 1 Corinthiens 4, 5, lire, Hébreux 12, 4, lire, le témoignage 28.11-63 côté 1. Ma vie. Je ne m'y suis pas un prédicateur. Tout le monde sait cela. Je ne m'y suis pas un prédicateur, mais c'est juste une disposition spirituelle d'observer et de voir des choses se mouvoir et pour avertir les gens des choses qui se passent. Et je suis constitué de la sorte, et je n'ai mis fait aucun effort, pas plus que vous n'avez mis fait aucun effort pour la vôtre. Mais, voyez, Dieu a mis chacun de nous dans le corps pour faire certaines choses. Et je regarde chaque petit mouvement, chaque objectif, chaque motif, parce que chaque chose est gouvernée par les esprits. Cette église est établie ici pour un but. Il y a un esprit derrière cette église. Certainement, il y a un esprit derrière votre maison, derrière chaque bâtiment, chaque chose. Il y a un esprit, le motif et l'objectif. Si cette église vient ici pour exalter grandement le système humain ou quelque chose, alors c'est que le motif n'est pas juste. Mais si elle est établie ici pour essayer d'accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu, alors le motif et l'objectif sont justes. Si c'est le motif, qui est dirigé de cette façon-là. Courbons simplement nos têtes dans la prière. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, janvier 2009. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et vos commentaires concernant ce site internet à briancocourec@yahoo.com.